Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 22h pour plein d'histoires, de secrets, de découvertes. Bonsoir Thomas.
Comment ça va?
Très bien, formidable.
Bienvenue à tous. Vous pouvez évidemment réagir comme tous les soirs au 3210 sur RTL.fr ou alors sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL sur Twitter et Facebook. Il y a une petite vidéo qui annonce le programme de l'émission avec Georges Lang où on parle de Robbie Williams. Elle vaut le détour, cette petite
vidéo.
On ne veut
pas se vanter, mais ça commence à devenir un petit peu culte, cette petite vidéo qu'on fait. Vous nous direz.
Alors, au programme.
La découverte du permafrost. C'est seul gelé au Canada, en Alaska. Oui, c'est le permafrost plutôt. Canada, Alaska, Sibérie, ce sont de vraies bombes à retardement. Avec le réchauffement climatique, la glace fond et libère des virus jusque-là endormis. Anthrax, variole, grippe espagnole, on vous raconte ce qui nous attend.
Et puis, on vous propose une rencontre avec des animaux extraordinaires. Chambord et Pato, un cerf et un loup, star de cinéma, mais aussi un cochon d'Inde qui donne des ordres à un labrador. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Et tout de suite, de la pop dans la curiosité. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
She won't forsake me. I'm loving angels instead.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Une voix de crooner sur un corps tatoué, le sens du scandale et du show aussi, le chanteur anglais Robbie Williams, c'est dans notre curiosité. Bonsoir Eric Jean-Jean.
Je suis tellement déçu.
Bonjour, vous aussi vous êtes tatoué.
Je suis tatoué, je pensais vous parliez de moi. Une voix de crooner, c'est un corps tatoué.
Un autoportrait. Ben
bonjour tout le monde, bonjour
je
Thomas.
Parlais de ça Robbie va, Williams qui vient de sortir son 12e album. C'est une immense star en Angleterre.
Oui, en Angleterre d'ailleurs, c'est un peu son problème puisqu'il n'a pas réussi à percer en solo aux États-Unis. On en parlera un petit peu plus tard si vous le voulez. Mais oui, c'est un type qui est dans le Guinness Book des records. Il a vendu 1,6 million de tickets pour sa tournée 2006, le tout en une journée. 60 millions à peu près, presque 70 de disques vendus pour un artiste solo. Il n'y a qu'un seul artiste hein, qui a fait quasiment aussi bien, c'est Elvis Presley. Alors je parle d'artiste solo, attention, hein. On ne parle pas des Beatles, on ne parle pas de Queen, on ne parle pas de groupe, on parle d'artiste solo, voilà. Il a vendu à peu près, en plus de ses 60-70 millions de disques en solo, il en a vendu 25 millions avec Take That. Je pense que financièrement tout va très bien.
Oui, on n'est pas inquiet pour effectivement ces fins de moi, Robbie Williams, surtout qu'il sort un 12e album, Heavy Entertainment Show, avec ce titre. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because he can. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my voice put the boots in. Party Like a Russian. Le clip, il ressemble à quoi? Décrivez-nous ce clip.
C'est une fête telle qu'on peut l'imaginer chez des apparatchiks russes avec tous les excès, avec des femmes qui probablement sont des prostituées, avec des Rolls-Royce dans des piscines.
Ouais, danse et elles font le ménage en même temps. C'est très pratique.
Ça lui a valu pas mal d'ennuis. Hein. À peine le clip sorti en Russie, les Russes nous sont tous tombés dessus. Et lui, il a dit hop, 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 attendez, je fais ça pour rigoler, quoi. Je fais du heavy entertainment. Vous savez pourquoi d'ailleurs un album s'appelle comme ça?
Parce qu'il a envie de nous divertir, c'est
oui, ça? Exactement. Et puis surtout, depuis quelques années à la télévision, on a tendance à prendre le divertissement comme une sous-culture. Et lui, il dit non, moi j'ai fait du divertissement lourd parce que le divertissement, celui qu'on aime, les grandes émissions de télé de divertissement qu'il regardait quand il était petit, bah, ça draine des millions et des millions de téléspectateurs et c'est pas n'importe quoi et c'est pas léger.
Vous l'avez interviewé plusieurs fois, Robbie Williams, c'est presque un copain, il paraît qu'il traînait dans les couloirs d'RTL2 près de vous la semaine dernière.
Sans me la péter, j'ai une histoire assez mignonne à vous raconter à son sujet. En fait, dans les années 90, je travaillais pour une autre radio où j'interviewais c'était souvent le groupe dans lequel il travaillait qui s'appelait Take That. Et en fait, comme il était un peu le petit canard noir de ce groupe-là, il me chopait à part et il me disait tu viens me chercher à 22h30. Alors il faisait le mur dans son hôtel qui était dans le 15e arrondissement. Il se taillait en douce. Moi j'avais une 205 pourrie toute blanche. J'allais chercher Robbie Williams, mais qui n'était pas encore la star qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ouais. Et on allait au Winston Churchill en haut de l'avenue Diana, tout près de la place.
Un restaurant. Buvait,
ouais, restaurant qui faisait bar à l'époque, beaucoup plus pub anglais. C'est pour ça que je l'amenais là-bas. On buvait des bières jusqu'à pas d'heure. Je le ramenais un peu à quatre pattes et voilà. Donc évidemment on est resté un peu copains. Ouais.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il chante ça peut-être.
Les paroles, là, il faut traduire quand même. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Sidonie ?
J'aime ma vie, je suis puissant, je suis magnifique, je suis libre. J'ai pris ma douche en écoutant ça, et ben ça m'a fait du bien. Il est un peu mégalo, Robbie Williams, non ?
Non, il n'est pas mégalo. Il faut savoir que parmi ses premières amours, il y a le rap, et vous savez que dans le rap, on est beaucoup là-dedans. Je m'aime, je suis fort, je suis le plus grand, et j'écrase tout le monde. Et j'ajoute à cela qu'il a fait quelques cures de détox, donc dans les cures de détox, on apprend aussi ce genre de truc. J'aime ma vie telle qu'elle est, je m'aime telle que je suis, j'essaye d'être quelqu'un de bien. Enfin voilà, c'est un personnage. Et puis surtout, il y a une dimension qu'on connaît un peu quand on l'a déjà vu sur scène ou qu'on l'a entendu en interview. Il est drôlissime, ce garçon. Il est drôle.
Il est drôle au point de, comment dire, chanter au moment de l'accouchement de sa femme. On va écouter ça tout à l'heure.
Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Saga Robbie Williams dans la curiosité à l'occasion de la sortie de son 12e album Heavy Entertainment Show. Et c'est Eric Jean-Jean qui nous raconte son histoire. Donc je disais juste avant la pub que le jour de l'accouchement de sa femme, qu'est-ce qu'il faisait, Robbie Williams? Eh bien forcément, il chantait.
I'm one with the rain and snow. Here I stand in the light of day.
Big deep breath in.
Let the wind roll on.
One,
the cold
two,
never bothered me
three,
anyway.
Can you stop singing Frozen?
Donc la fin, c'est de chanter, c'est sa femme, j'imagine, sa femme qui en peut plus.
Mais oui, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour lui ce qui lui arrive. Il a deux enfants, il y en a un qui est né en 2012 et l'autre en 2014.
Il est dingue.
Et oui, mais surtout, il a partagé ça sur les réseaux sociaux. Il y en avait partout. C'était sur Instagram, c'est sur Twitter. Mais pour lui, c'est l'histoire de sa vie. D'abord, l'histoire avec cette femme dont il est tombé fou amoureux, moitié turc, moitié américaine. Elle est actrice dans des soaps aux États-Unis, puis surtout elle est présentatrice d'un show télé à la BBC en Angleterre. Elle fait partie des quatre présentatrices.
Voilà. Et elle voudrait pouvoir pousser tranquille.
Robbie Williams, il naît le 13 février 1974. Dans quel coin de Grande-Bretagne et dans quel genre de famille?
Alors, vous voyez la carte de l'Angleterre, vous montez un tout petit peu en haut, à gauche, pas très loin de Londres. Ça s'appelle Stoke-on-Trent. C'est une petite ville. Dans cette ville, il y a deux trucs. Il y a la poterie et le football. Il y a deux clubs de football. D'ailleurs, Robbie est le principal, j'allais dire, donateur du deuxième club de football.
Ah, je voulais dire d'une société de poterie.
Non, je sais pas. Ou alors, je suis pas au courant, mais il a donné beaucoup d'argent à plein de gens quand même. Et donc, il a des frères et sœurs, mais surtout, il arrive dans une famille avec un papa qui est comédien. Son papa s'appelle Peter. Peter Conway, c'est son nom de scène parce qu'il est acteur. Alors, pas un grand acteur, pas un acteur très connu, mais un acteur quand même reconnu en Angleterre. Et sa maman, elle est fleuriste. Et,
mais il va pas connaître longtemps son papa.
Non, parce que son papa va très mal se comporter dès la naissance de Robbie, qui s'appelle pas Robbie, il s'appelle Robert Peter Williams. Donc, ouais. Il va partir et en fait, le petit Robbie ne verra son papa que 4 ans après qu'il va revenir. C'est-à-dire que l'absence du père. Alors, c'est normalement d'un âge où on s'en rappelle pas, sauf que là, il doit y avoir quelques séquelles et d'ailleurs, les relations entre le père et le fils sont pas terribles pour être tout à fait franc.
Alors, Robbie Williams, qui s'appelle donc à l'époque Robert Williams, il a à peine 2-3 ans et il est déjà fasciné par la musique. Dans les jukebox des bars, il se trémousse devant cette chanson.
Grease.
Olivia Newton-John et John Travolta.
Bien sûr. À 2-3 ans, il est déjà dans les bars avec les jukebox.
Mais oui, mais en fait, remettez-vous dans le contexte. Aller dans un pub quand on est anglais, c'est pas péché, y compris quand on est petit. C'est-à-dire qu'on peut boire des citronnades ou des fraises, des choses comme ça. On était avec sa maman. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il est très, très attaché à sa maman, Robbie Williams. Et donc, il découvre cette machine absolument insensée. D'abord parce qu'elle est pleine de couleurs, le jukebox. Et puis ensuite, parce qu'il y a cette chanson. Alors, là, l'histoire raconte, moi, j'étais pas là, hein, mais qu'il dansait en imitant à la fois Olivia Newton-John, à la fois Elton John. Enfin, voilà, ça. Elton John, pardon,
John Travolta.
Ouais, ouais, ça. Mais Elton John, c'est son grand copain quand même.
C'est comme ça qu'il va apprendre le métier, Robbie Williams, en dansant, en famille, en prenant. Ou alors il fait une école de danse et de chant, non? C'est sur le tas.
D'abord, l'école et lui, c'est pas non plus le truc qui se passe le mieux. Non, non, il va apprendre un peu par mimétisme, un peu en apprenant à danser, un peu en apprenant à chanter, et puis en écoutant la musique. Et puis il est fasciné par ça. Il a quelques obsessions, hein, notamment le fameux Sing It in the Rain, qui pour lui est la plus grande chanson du monde, l'une des deux plus grandes chansons du monde.
L'autre
c'est Bohemian Rhapsody.
On écoute. On l'écoute très bien en entier, évidemment. Je suis un grand fan de Queen, donc ça me fait mal d'interrompre Freddie Mercury.
Parfaite.
Oui, c'est sans doute la chanson parfaite. Là, il y a un coup d'accélérateur dans la carrière de Robbie Williams quand sa mère découpe une petite annonce dans la presse.
Ouais, il y a un producteur qui recherche un chanteur pour un boys band. Alors, ce type s'appelle Nigel Martin Smith. En 1990, il forme un groupe. Il y a Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald et le petit dernier qui arrive qui s'appelle Robbie Williams. Et ensemble, ils ont formé un groupe qui s'appelle Take That.
Et ils vont chanter ça.
I guess now it's time for me to give up.
On va pas se mentir, hein, ça casse pas trois pattes.
Ah, on va écouter un petit peu encore. Ça me rappelle
On a coupé Queen, alors franchement, c'était meilleur, hein, Bohemian Rhapsody.
Je ne vous ai pas en parler parce que moi, je ne veux pas mettre de feu sur
le. Attendez, c'est le refrain, écoutez. C'est toute mon adolescence.
C'est ça, c'est pour ça, d'accord.
Les Take That Back for Good. Enfin, on plaisante, mais c'est quand même ce groupe qui va lancer Robbie Williams dans les étoiles.
On plaisante pas du tout, Sidonie. C'était colossal. C'est le groupe qui, après les Beatles en Grande-Bretagne, il faut bien le savoir, hein, a vendu le plus de disques en groupe. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est des superstars et surtout, ça va permettre aussi de vendre des disques aux États-Unis. C'est le seul moment de sa vie où Robbie Williams a vendu des disques aux États-Unis.
Mais l'histoire ne se termine pas bien. Oui. Avec le groupe.
Le groupe s'arrête, pourquoi ?
C'est le vilain petit canard, hein. C'est-à-dire que les autres sont très propres, les quatre que je vous ai cités. Et puis il y a ces histoires aussi d'homosexualité, hein. C'est-à-dire que le manager était supposé avoir une pression physique, psychologique et aussi vraisemblablement sexuelle. Alors ça n'a jamais été vraiment dit,
sur son
quand même,
groupe.
Ça a été. Ouais, sur son groupe. Robbie, lui, il est plus petit, il est un peu plus grassouille et il joue le rôle du bad boy dans la bande. Sauf qu'il le fait vraiment, le bad boy, il se défonce beaucoup, il y a beaucoup d'histoires avec l'alcool, avec la drogue, et à un moment, il se fait foutre dehors.
Et ben voilà, c'est la fin de l'histoire de Take That, le groupe préféré de Sidonie Bonnec et donc Robbie Williams en
quel
solo.
Quel snobisme,
tout de suite, les
curieux. Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL. End of discussion. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On danse sur les tables dans la curiosité. Robbie Williams sort son 12e album Heavy Entertainment Show et ses premiers singles sont déjà des tubes.
I love my life.
Alors comment tout a commencé? C'est ce que l'on vous raconte avec Eric Jean-Jean. Robbie Williams a commencé dans un boys band, les Take That, dont il est viré en 95. Mais c'est pas grave, il décide de se lancer tout seul. Mais avant, il va rencontrer des frères diaboliques, des frères anglais.
Ils sont pas diaboliques, ils sont un peu particuliers.
J'ai choisi mon camp.
Deux frangins de Liverpool qui ont un groupe qui marche très fort à l'époque des années 90. Hein. On est dans la période de cette pop anglaise. C'est le groupe Oasis. Alors Liam.
Ah, les frères Gallagher.
Ouais, voilà. Liam, c'est le chanteur. C'est le grand qui chante toujours avec les mains main dans le dos, penché sur son micro, on a l'impression qu'il va nous casser la gueule. Et Noël, c'est celui qui compose et qui joue de la guitare. Ils vont être hyper copains. Ils vont beaucoup sortir. Ils vont, voilà, c'est ça.
Hein. Wonderwall.
Wonderwall, qui est l'une de leurs plus belles chansons, en fait. Ouais, c'est un petit chef-d'œuvre, cette chanson. Et donc, il va beaucoup sortir avec eux. Il va beaucoup faire la fête. Ils vont beaucoup se saouler. Ils vont beaucoup se défoncer. Il va y avoir, comment dire, quelques petites discordes à un moment. Parce que Robbie, à l'époque, sort avec la chanteuse des Olsens, qui s'appelle Nicole Appleton, qui va s'en aller dans les bras de Liam Gallagher. Donc, déjà, c'est un peu tendu. Et puis, surtout, à un moment, les frères Gallagher, qui sont vraiment deux sales cons, mais il faut le dire, vont se mettre à dire du mal de lui. Genre,
qu'est-ce qu'il raconte?
C'est le petit gros qui dansait dans le boys band.
C'est un peu jaloux, non?
Karaoké. Ouais, ils sont jaloux du succès, mais surtout, ils sont dans leur rôle de lads. Vous savez, les lads, c'est les bad boys à Liverpool. Et puis, Liverpool, c'est tout à fait le nord, l'Angleterre beaucoup plus dure, etc. Voilà, ils se prennent un peu pour les Beatles, ils ont le melon, on le sait. Ils font de la grande musique et de la bonne musique, on le sait, mais ils sont pas très sympas, on le sait aussi.
Oui, et puis aujourd'hui, Oasis a disparu parce que les deux frères ont fini par se fâcher, non? C'est ça?
Oui, ils sont beaucoup battus, ils sont séparés. D'ailleurs, ça s'est passé à Paris à l'occasion du Festival Rock à Paris. Ils devaient jouer. Le soir même, ils se battent pour la énième fois et décide que c'est fini. Bon. Chacun a fait un groupe de son côté. C'est pas si fini que ça. Moi, bon. je suis pas à l'abri. Un jour, je les ai interviewés et ils m'ont dit, on va pas se séparer pour la vie parce que sinon notre mère elle va nous tuer.
Donc peut-être se reformeront-ils. En tout cas, Robbie Williams, oui, il s'est lancé en solo, un vrai succès, une vraie ascension. Tiens, sur son premier album solo, on découvre cette chanson.
Forsake me.
Robbie Williams qui, depuis qu'il s'est lancé dans cette carrière solo, tutoie les étoiles, et avoir des anges autour de soi, ça aide. Angels, c'est le titre de cette chanson. Oui. Tout de suite classé dans les meilleures ventes, c'est ça? Oui, comme ça, tous ses disques depuis.
Oui, ça lui vaudra... oui, je crois qu'il a classé 11 singles numéro 1 depuis le début de sa carrière en Grande-Bretagne, ce qui est quasi inédit. Cette chanson, vous avez entendu les trois notes de piano là, c'est une allusion directe à Elton John. Évidemment, les Anglais adorent Elton John. Oui. Avant de sortir cet album, il va faire un truc très intéressant. Il va reprendre Freedom de George Michael. George Michael, rappelez-vous, le groupe Wham, image un peu de garçon coiffeur, exactement comme Robbie Williams, qui exprès reprend la même chanson pour dire je suis libre maintenant et je fais mon album en solo. Alors voilà, Angel, bah vous l'entendez, cette chanson est absolument insensée.
Comment il travaille, Robbie Williams? Il écrit, il compose sa musique et il écrit ses textes?
Les deux, mon capitaine, mais il se fait aussi pas mal aider. Par exemple, sur ce nouvel album qui vient de sortir là, à l'automne, il a reconvoqué Guy Chambers. Guy Chambers, c'est un hitmaker avec qui il a fait ses premiers gros succès. Ils travaillent ensemble, un peu comme Bernie Taupin, par exemple, avec Elton John.
Qu'est-ce qu'il raconte dans ses chansons? Il parle d'amour?
Oui, il n'y a pas de règles. Il parle d'amour. Et puis souvent, ce qui est assez rigolo avec Robbie Williams, alors par exemple, c'est la musique qu'on écoute là. Écoutez ça. Vous voyez aucune allusion à un film très connu et à un agent célèbre?
James Bond. Bond.
Bah oui, écoutez. Écoutez la mélodie derrière, les violons.
Oh, vous avez l'oreille.
James Bond, d'ailleurs, le rêve de Robbie Williams.
Donc c'est vraiment la chanson populaire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a toutes les références de la chanson populaire.
Ouais, c'est de la mélodie populaire. Il est vraiment fort à ça.
Un talent musical fou, mais aussi le sens du scandale dans ses clips, notamment le récit dans un court instant, les curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut. RTL. Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À l'occasion de la sortie du 12e album de Robbie Williams, on vous raconte son histoire avec Eric Jean-Jean. Robbie Williams, machine à tube, parfois un peu sirupeux comme ceux qu'on vient d'entendre, machine à scandale aussi. Tiens, par exemple, avec ce clip, on est en l'an 2000. Pourquoi ça fait scandale, Eric ?
Parce que dans le clip vidéo, il fait un striptease. Bon, jusque-là, tout va bien. Il y a des filles autour de lui. Sauf qu'il commence par enlever sa veste, sa chemise. Mais à un moment, il enlève sa peau, il enlève ses muscles et ils finissent que d'être ensemble. Sauf qu'il le fait. C'est pas tellement artistique. C'est vraiment, il arrache des bouts de peau. Il les jette aux filles qui sont autour de lui.
Qui les dévore.
Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est gravement gore, ouais.
Allez, autre chanson, autre tube et autre scandale, forcément.
Alors là, Thomas. Écoutez le son de la guitare derrière, justement, parce qu'on se rapproche du rock et on se rapproche des frères Gallagher.
Donc il a gardé un peu de leur influence quand même.
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pas que dans la musique.
Alors moi, cette chanson, j'étais sûre que c'était une chanson d'amour, comme Undone, jusqu'à ce que je vois le clip.
Oui, c'est
une
nuit de débauche.
Avec des insectes et des rats.
Oui, je sais. Oui,
mais racontez-nous un peu ce...
Non, c'est le parcours.
C'est un souvenir, c'est une fête avec vous, c'est quoi ?
Alors, je m'en rappelle pas. mais peut-être, hein, peut-être que j'étais là ce soir-là, je m'en rappelle pas. Ça fait partie, du personnage qui explore ses cauchemars. Parce que souvent, dit-il, pour les clips vidéo, en tout cas pour les idées qui entourent les clips vidéo, il part de ses propres rêves. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est la nuit de débauche. Et puis, c'est surtout un truc qui décrit quelque chose qu'on peut pas connaître quand on n'y a pas été, c'est la descente.
C'est-à-dire
la descente après la drogue, la descente après l'alcool, c'est-à-dire au moment où vous êtes dedans, vous êtes up, comme on dit, vous êtes défoncé, vous êtes sous, et lui a vraiment été dans l'abus. Et puis à un moment, il y a le lendemain, quand l'alcool commence à baisser, quand la drogue commence à baisser, et que vous sentez que vous allez crever.
Ouais. Par exemple, en 2003, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a un concert absolument gigantesque,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et puis la descente, racontez-nous.
D'abord, le plus grand concert de Robbie Williams, probablement. Il se trouve que j'ai assisté à ce concert. Alors, Networth, c'est un endroit où il y a un château. Le castle de Networth, c'est un endroit qui, j'allais dire au trou de l'Angleterre, mais c'est un peu ça. Mm-hmm. Un endroit assez majestueux. Et pendant 3 jours, début août 2003, il y a eu Pink Floyd, tout le monde a joué, hein, Led Zepp, etc. Et 2003, on invite Robbie Williams qui va donner devant, je crois, 375 000 personnes, wow, 3 concerts absolument insensés, c'est-à-dire les plus grands concerts de sa carrière. D'ailleurs, lui-même le dit la dernière fois qu'il est venu en septembre, on a parlé de ça pendant l'interview, et justement il m'a raconté que pour lui, c'était l'apogée de sa carrière, donc il donne des concerts. Le concert commence, il arrive quasiment en suspension, comme ça, au-dessus de la foule, avec les bras écartés, et il dit en anglais, je vais vous faire en français, mais vous allez assister au plus grand concert de tous les temps, et probablement, ce jour-là, on a assisté au plus grand concert de tous les temps. Et donc ce concert est insensé, il y en a 3, ça va être un carton, il y a des milliers de personnes, et puis après ça s'arrête. Et c'est exactement comme la descente avec la drogue dont je vous parlais, Thomas et Sidonie, tout à l'heure. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a reçu, des 100 000 personnes qui hurlaient votre nom, qui voulaient vous aimer, qui voulaient danser avec vous, qui chantaient vos chansons, quand on est tout seul dans sa chambre d'hôtel? Parce que lui, il va s'enfermer tout seul dans une chambre d'hôtel, et là il sait plus quoi faire pour que ça continue. Alors beaucoup de drogue, de la cocaïne particulièrement, il va boire des litres de vodka, aller jusqu'à récupérer. C'est lamentable, hein, ce qu'il fait. Il le dit. Oui, c'est glauque, mais vous savez, c'est glauque quand c'est des descentes comme ça. Mmh. Et il va récupérer des groupies devant. Il va essayer de se prouver qu'il est encore vivant, alors qu'il vient probablement de vivre l'une des choses les plus fortes de sa vie. C'est les limites du personnage. C'est comme ça que ça fonctionne, en haut et en bas.
Et cette addiction, elle a commencé très tôt dans sa carrière, très jeune. Mmh. On se dit que quand on a à peine 15-16 ans et qu'on commence à se défoncer alors qu'on a à peine du succès, c'est quoi ? C'est que dans ce milieu, ça circule beaucoup, c'est ça ?
Pas que dans ce milieu. Vous avez vu le film Trainspotting, ce fameux film qui est en
anglais,
train d'être en train de tourner ou d'être fini de tourner pour la deuxième session. Bah voilà, c'est un peu ça, c'est ces Anglais qui n'ont pas d'argent. Alors ça commence par des acides, du LSD. Quand on a un peu de sous, on achète de la cocaïne, on boit beaucoup, parce que Robbie Williams buvait beaucoup. Je crois qu'il a arrêté. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool depuis des mois et des mois.
C'est ce que j'allais vous demander, il en est sorti de ses addictions ?
Ouais, après pas mal de cures de désintoxication, parce qu'il savait que ça allait le tuer, que ça allait tuer sa carrière. D'ailleurs, là, cet album, ça marche pas mal, mais ça fait 2-3 albums que ça marchait beaucoup moins bien. Voilà,
C'est-à-dire qu'il y a des jours, des soirs où il n'a pas pu monter sur scène tellement il était mal.
Oui, il y a cette histoire célèbre, il a 19 ans, c'est à l'occasion, je crois, des MTV Music Awards. Il arrive et là, il a pris un cocktail genre à base de cocaïne, de LSD, etc. Enfin bref, tout ce qu'il ne faut jamais faire dans la vie, et il fait croire à tout le monde qu'il est malade, sauf que évidemment, personne n'est dupe. Ça fait aussi partie des raisons qui font qu'en 1995, les Take That, les propres Take That, vont le foutre dehors. C'est aussi peut-être l'une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché pour lui aux États-Unis.
Robbie Williams qui a des addictions, mais une passion aussi, pour le football. Ouais. Il y joue au football ?
Il adore ça, bah, comme tous les Anglais. Hein. Sting est foot football aussi. Et lui, il va même jusqu'à être, je le disais, hein, il y a dans sa ville d'origine deux clubs. Et il est le principal actionnaire d'un des deux clubs de foot. Ouais. Elton John aussi, pendant des années, a été le président
d'un club, ouais.
club de foot. Voilà. Mais c'est le côté anglais, c'est des superstars. On a l'impression que rien ne les intéresse. En fait, si, un match de foot.
Robbie Williams, scandaleux, trash, qui chante... qui peut quoi chanter à la fois pour les enfants dans un film d'animation, ça lui est arrivé.
Ouais,
et puis aussi, on va vous raconter cette histoire, un duo avec Frank Sinatra. C'est possible ça ?
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h, RTL.
Ringo, ringo, roses, whoever gets the closest, she comes and she goes as the war of the roses.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est le destin d'un chanteur génial et scandaleux qu'on vous raconte dans La Curiosité. À 42 ans, Robbie Williams a déjà vendu plus de 60 millions d'albums dans le monde. Il sort son 12e album. Eric Jean-Jean, on a parlé de ses clips qui sont parfois violents, scandaleux, obscènes. Et pourtant, c'est Robbie Williams qui interprète la chanson-titre d'un film d'animation pour enfants, Nemo.
Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.
Une reprise de la mère de Charles Trenet dans le film d'animation Néo. Robbie Williams, il touche à tous les gens, on le laisse faire et il excelle.
Oui, alors là en l'occurrence, la version qu'il reprend, c'est évidemment Trenet, mais c'est plutôt la version qu'avait fait Benson, George Benson, qui fait une interprétation absolument remarquable. Mais c'est sur un album qui va sortir en 2001, cette reprise, un album qui s'appelle Swing When You're Winning. Et dans cet album, il fait la part belle au fameux crooner des années 60 qu'il reprend. Parce que Robbie Williams, il faut savoir que c'est un grand chanteur, faut pas oublier ça, il a cette voix et il a ce truc-là, ce qu'avait Sinatra, il swing et c'est assez rare.
Et d'ailleurs, il a rendu hommage à Sinatra lors d'un concert mythique. C'était où ?
Ouais,
c'était à Londres,
Royal
c'est ça ?
Albert Hall à Londres. Et il a fait un truc magique. Je conseille à tous les auditeurs d'RTL de regarder la séquence sur Internet.
Ça commence alors, comme ça.
Voilà.
And I was 17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls.
Donc on imagine Robbie Williams sur la scène.
Quasiment, quasiment un spectacle en noir et blanc. Si vous fermez les yeux, vous le voyez. Il y a un grand escalier comme ça, de chaque côté, exactement comme le show des Carpentiers à la télévision à l'époque. Vous voyez. Au milieu, il y a un orchestre qui joue la mort. Et au fond, il y a un écran géant. Au début, on se dit simplement, c'est pour reproduire l'image de Robbie Williams. Mais soudain, arrive quelqu'un.
It was a very good year for blue-blooded girls of independent means.
Frank Sinatra.
Et là, il fait quoi, Robbie Williams ?
Il regarde la caméra et puis il se retourne doucement. Donc imaginez, il est face à la caméra, il est en train de chanter pour le public et soudain arrive, sans qu'on prévienne, la voix de Sinatra et surtout dans l'écran, l'image de Sinatra. Il se retourne. Il le laisse finir la chanson. Et évidemment, quand la chanson arrive, tonnerre d'applaudissements. Et là, il a une phrase géniale. Je ne me rappelle plus la phrase vraiment en anglais, mais il dit « C'est vraiment le meilleur
». Il a sorti pas mal de disques de jazz aussi, ouais. Robbie Williams.
Il a surtout
il
sorti,
fait des reprises
ouais,
ou
il a surtout sorti celui-là, ouais. qui est une compilation de cet album-là qui est sorti en 2001, « Swing When You're Winning ».
Mais c'est quoi ces influences musicales, finalement ? C'est un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, ça va de Sinatra
au
frère Gallagher et au rap.
Oui, l'un des premiers disques qu'il a acheté. C'est un môme qui a 42 ans. Quand je dis un môme, c'est parce que dans les années 80-90, c'est l'explosion du rap. Le rap qui arrive des États-Unis avec cette espèce de gros son. Et il aime ça aussi. Et d'ailleurs, la manière qu'il a de bouger et de danser, c'est très, très volé au rhythm and blues, comme on appelle ça aujourd'hui chez les Jones.
Alors justement, moi je ne l'ai jamais vu sur scène.
Dingue.
Ça donne quoi?
Ça donne un homme qui sait danser, qui chante bien et surtout un homme infiniment drôle. Je me souviens, on a beaucoup parlé évidemment du Bataclan ces derniers temps, mais parmi les endroits où je l'ai vu, notamment à Nemours, je vous en parlais, là c'était autre chose, là, c'était vraiment un gros show. Mais par exemple au Bataclan, ce jour-là, il y avait sa maman et le Bataclan sur les hauteurs, il y avait sa maman qui était là, il n'arrêtait pas de faire des vannes et de dire des gros mots. Et à chaque fois qu'il en disait, il fait « Oups !» Sorry mom. Et il s'est excusé auprès de sa maman et il a fait bidonner toute une salle qui parlait pratiquement pas anglais, hein, je parle de la salle. Mais oui, en fait, il est drôle, il a des mimiques, il fait des grimaces et puis quand il y va quoi. Non, c'est un très très bon showman. D'ailleurs, il passe à Bercy au mois de juin prochain, allez le voir.
On va réécouter un autre extrait de son futur album AV Entertainment Show, ça s'appelle Pretty Woman. Hey, pretty woman, I wanna take you out. No place we can move our feet downtown. Ease into the rhythm when I hear that sound. My mama told me and I do not back down. Hey, pretty woman, I love the way you move. Pretty Woman version Robbie Williams, c'est une collaboration avec un artiste qu'on connaît très bien et qu'on aime beaucoup à RTL.
Ed Sheeran. Et alors je lui ai posé la question quand il est venu. Je lui ai dit, Ed Sheeran, bah, il dit en fait, ma femme me poussait pour que je fasse un tube. Et puis moi, je savais pas trop comment faire les tubes. Alors, comme j'ai des insomnies en ce moment, j'étais couché dans mon lit. Et puis, je me dis, ah, Ed Sheeran. Alors il y a une expression anglaise, je l'ai oublié, mais il y a le purple quelque chose. C'est le type qui a le mojo, qui fait les tubes du moment. Bah, c'est lui, c'est Ed Sheeran. Alors il s'est levé en pleine nuit. Il a réussi à trouver le mail de Ed Sheeran qu'il ne connaissait pas. Il lui envoyait bonjour, je suis. Il m'a raconté.
Attendez, mais on peut tous faire
je
ça.
Je suis Robbie
fait.
Williams.
Ouais, bonjour.
Ed Sheeran a dit foutez-moi la paix, ça suffit les canulars.
Et donc, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me faire une chanson? Et Ed Sheeran lui a offert cette chanson-là, qui risque fort quand même d'être une des chansons qui va marquer ce nouvel album.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure qu'il aimait bien donner autour de lui. Il est généreux, c'est quelqu'un de généreux, Robbie
particulièrement
Williams.
Particulièrement généreux et comme tous ces Anglais de la classe moyenne, il aime beaucoup donner. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi avec beaucoup d'argent. Je vous ai dit, sa maman était fleuriste, son papa a disparu dès qu'il était petit, et puis après il n'est plus jamais vraiment revenu. Donc Robbie, dès qu'il a commencé d'abord à sortir du brouillard, on se l'est dit, hein, il s'est pas mal perdu, mais dès qu'il a commencé à être un peu conscient de ce qui se passait autour de lui, il a participé à plein de choses. Notamment, il fait partie d'une des plus vieilles associations caritatives anglaises, qui s'appelle Comic Relief, qui défend des causes qui touchent le Royaume-Uni. Et en 2001, il a créé une section de cette association qui s'appelle Give It Some, et il y a une chanson à lui qui s'appelle United. Et tous les droits gagnés par cette chanson, il les a donnés à cette association et ça fait beaucoup d'argent quand on sait qu'il passe beaucoup à la radio. Et cette association, c'est vachement bien, c'est pour ça que j'en parle particulièrement, parce qu'il a fait plein de choses. Mais cette association, notamment, elle aide les gens sur le terrain en local. C'est-à-dire que ce sont des gens du cru qui décident de qui il faut aider et comment. C'est pas de l'argent qui est jeté par la fenêtre.
Parce qu'ils savent qui aider.
Ouais. Il a aussi participé à un truc très important en Angleterre qui s'appelle le Red Rose Day. Ça a lieu tous les deux ans et lui, il y participe à chaque fois. Il a même fait une vente aux enchères d'objets lui ayant appartenu. Il a récolté 165 000 livres, ce qui est beaucoup d'argent, qui ont tous été reversés. Et puis, il est aussi ambassadeur de l'UNICEF. Bref, il fait plein de belles choses.
Merci beaucoup, Eric Jean-Jean, pour cette saga Robbie Williams, ce micro de la curiosité. On vous retrouve dans votre grand studio, samedi, 15h-23h.
Exactement.
Avec qui ?
Laissez-moi réfléchir. On a passé Vianney. Ah non, c'est un grand studio humour. Le prochain, ce sera l'enregistrement mardi prochain de Julien Clerc, qui sera mon invité.
Et puis, tous les jours, pour avoir notre dose d'Eric Jean-Jean, tous les jours, évidemment, le drive sur la TL2.
Oui. Même si je parle plus vite, c'est moi.
C'est le même. Merci Eric.
Salut les copains.
À très vite dans la
curiosité.
Ça nous a donné envie de raconter l'histoire de Freddie Mercury.
Je reviendrai pour ça.
Allez,
je
reviendrai. Le rendez-vous. Pour ça, et puis on va faire ça en janvier.
Et si je peux me permettre, regardez ce concert au Royal Albert Hall où il reprend des standards.
C'est magique.
Oh, ouais. Énorme.
Vous écoutez RTL.